Bonjour à toutes et à tous. Je vais ici tenter un exercice qui est impossible, à savoir expliquer en à peine 5 minutes ce que Hannah Arendt a écrit sur la violence. La violence, c'est une thématique qui imprègne vraiment toute son œuvre à Hannah Arendt. Elle y a même consacré un ouvrage entier intitulé On Violence, sur la violence. Alors, à propos d'Hannah Arendt, très rapidement, c'est une théoricienne du politique et ses ouvrages les plus connus sont Les origines du totalitarisme, la condition de l'homme moderne et Eichmann à Jérusalem. Dans le contexte de cette capsule, je vais parler, à partir d'Arendt donc, de la logique qui est dissimulée derrière la violence à l'égard d'une communauté particulière. Et cette violence prend sa forme la plus terrible lorsqu'elle devient ou lorsqu'elle mène à un génocide. Alors, pour Hannah Arendt, il faut savoir que l'humain est fondamentalement violent. Non pas au sens où il serait naturellement brutal ou poussé à faire souffrir les autres, mais au sens où il est marqué, je dirais, par un besoin qui est celui d'évoluer dans une réalité stable. Nous avons besoin, par exemple, d'un langage, d'objets, de règles, et nous avons besoin de les envisager comme durables, simplement pour conférer au monde dans lequel nous évoluons une réalité en dehors de nous-mêmes. Ce besoin d'une réalité stable implique une forme de violence. Pourquoi? Parce que le monde durable ne nous est pas donné. Nous le construisions, nous en garantissons la solidité. Une forêt, par exemple, ne nous est pas par défaut hospitalière. Elle le devient quand nous y construisons une cabane, quand nous y traçons des chemins. Et pour ce faire, nous devons violemment, au sens strict, au sens d'une rupture, disons, abattre des arbres. L'objectif de l'humain, lorsqu'il est dans cette logique, c'est de faire émerger l'ordre à partir du désordre. Pour Arendt, la nature, lorsqu'elle est vierge de l'humain, n'est pas saisissable par l'expérience. C'est-à-dire que lorsque nous rentrons en contact avec la nature, nous l'organisons d'emblée. La nature sans nous n'est pas accessible à l'expérience. Parce que c'est par le langage, par les concepts et même matériellement en nous construisant des objets que la nature nous devient accessible. Ce qui signifie que, en dehors de la réalité durable, fabriquée par l'humain en tant qu'il est, alors là, Arendt utilise le terme homo faber, c'est-à-dire un être capable de manipuler des outils pour transformer son environnement, eh bien, en dehors de cette réalité, rien ne nous est visible. En dehors du monde d'homo faber, rien ne nous est visible. Nous ne voyons les choses qu'à travers le prisme qui a été bâti par Homo Faber, et ce prisme est construit. Alors, qu'en est-il de la violence à l'égard des personnes? Je l'ai dit, Homo Faber est violent car il doit ordonner ce qui l'entoure, et cela implique toujours une rupture. La logique d'Homo Faber, elle se résume facilement avec le proverbe « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs ». Quel est le danger? Eh bien, le danger, c'est de ne considérer le monde et la réalité qui nous entoure, en ce compris les individus, sous le même prisme. C'est-à-dire que l'humain marqué par le besoin de stabilité, d'ordre, donc l'humain quand il est dans sa posture d'homo faber, de fabricant, est prompt à voir comme une menace l'action des autres humains. Pourquoi? Parce que contrairement au monde fabriqué, l'action humaine n'est pas stable, elle est changeante, elle est imprévisible, elle est contingente. Elle rompt avec la stabilité dont, rappelons-le, nous avons besoin. Le problème n'est pas en soi le besoin de stabilité. Le problème survient lorsque la logique d'Homo Faber, qui est un créateur d'ordre, tend à s'appliquer non plus juste à l'environnement, mais à la communauté humaine. C'est pour ça que Hannah Arendt a beaucoup critiqué les sciences sociales, ou l'utilitarisme qui tendait à objectifier l'être humain. Quand l'humain est dans cette posture d'homo faber, il tend à organiser la vie politique, donc notre vie en commun, comme un sculpteur façonne une statue. Il a en tête un monde idéal, un modèle, et il veut transformer la réalité en fonction de ce modèle. Tout ce qui va à l'encontre de ce modèle doit alors être supprimé, comme l'écorce de l'arbre pour l'ébéniste. Parce que c'est un obstacle à la réalisation du projet. Pour l'ébéniste, l'écorce de l'arbre est un obstacle à la réalisation de la chaise. Et pour Homo Faber, qui veut organiser la communauté humaine, des personnes qui pensent différemment de lui ou qui menacent la stabilité qu'il essaie de faire advenir doivent être éradiqués. Voilà donc l'origine de la violence, la logique de l'organisateur, de Homo Faber, appliquée à la communauté humaine, donc à la politique. Ce qui est essentiel, c'est ceci. Rappelez-vous que le monde, pour Arendt, est ce qui rend la réalité visible. En dehors du monde organisé, point d'élément qui se donne à l'expérience. Par exemple, ce que le langage ne nous permet pas de cerner, il est impossible de le décrire. Donc, celui qui organise la vie en société avec l'attitude d'Homo Faber, le fabricant, va non seulement refuser ce qui entre en contradiction avec son modèle, mais va aller jusqu'à éliminer l'autre. L'éliminer du champ de l'expérience. Et ici, nous comprenons pourquoi Arendt insiste à ce point sur le fait que sous l'Allemagne nazie, les camps de concentration étaient invisibles, inconnus des citoyens allemands non mis dans la confidence. Les camps de concentration, en fait, vérifient la possibilité de transformer totalement la réalité, en ce compris les êtres humains qui y évoluent. Une réalité, par exemple, dans le cas du génocide perpétré par les nazis, dépourvue de juifs. Donc la violence du génocide, d'un génocide, pour Arendt, elle vient de l'ambition de l'humain de traiter la communauté humaine sous le mode de la fabrication. Elle vient de l'ambition de l'être humain de générer une réalité d'où il pourra exclure ce qui ne correspond pas à son modèle. Exclure jusqu'à la destruction complète. Alors ça fait évidemment froid dans le dos, et je vous laisse ici, j'espère que ça vous aura donné matière à penser.